si virgule, vont bon train. Je vous propose de vous asseoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont en haut. Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2021. J'entends beaucoup que 2020 ne restera pas dans les annales. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand même. Cette année 2020 a été extrêmement particulière, a provoqué des difficultés, de la souffrance, mais c'est ça aussi, et c'est ça aussi la vie, et je pense que ça restera comme une année importante. Donc voilà, ne l'oublions pas, construisons avec et pas sur l'oubli. J'aurai l'occasion de vous présenter des vœux un petit peu plus structurés, parce qu'on est en train de préparer une petite vidéo qui va apparaître sur le site et dans tous les moyens de communication, qui sortira, je pense, la semaine prochaine. Voilà. Et donc, il n'y aura pas de présentation aux vœux ici, pour des raisons évidentes de limitation sanitaire. Donc, il n'y aura pas de présentation à la halle. Je vous prie d'excuser M. Delpal, qui a donné son procuration à Mme Vignon. Valérie Demardieu, qui a donné une procuration à Marc Hébrard. Et Laurent Girard, qui a donné une procuration à Camille Perrin. Je vais faire l'appel. Robert Bablot. Patrice Benoît. Nadia Nelson. Christian Bussard, présent. Alain Chouville. Présent. Vincent Domard. Valérie Debarbieu, donc absente. Pouvoir à Marc Hébrard. Bernard Delpal, absent. Pouvoir à Napoléon Pignon. Marc Hébrard.
Présent.
Laurence Girard, absente. Pouvoir à Camille Perrin. Jacques Glaise. Présent. Vanessa Huguenin, Sylvain Jean, Marie-Madeleine Leclerc, Anne Liagre, Christophe Mancini, Marion Martin, Magali Miani, Geneviève Morelas, Nathalie Paulin, Camille Perrin, Frédéric Stein. Ça va finir par rentrer. Excuse-moi, Fred.
Mais non.
C'est ma tendance.
Alsacienne.
Exactement. Ma grand-mère était alsacienne. Elle s'appelait Umdenstock. Carrément. Hein. C'est pas pour rigoler. Et Paulette Vignon. Merci à tout le monde. Il nous faut un secrétaire de séance. Ah, on en a deux. Yes. Vanessa, secrétaire. Allez, merci. Alors, un petit mot sur le public. On n'est encore pas arrivé à savoir si vous aviez le droit d'être là ou pas. La préfecture nous a dit oui, la sous-préfecture nous a dit non. Donc, on est resté discret, on a dit, si ils viennent, on les laisse. Bienvenue. Vous serez amené à rentrer chez vous rapidement, avant 20h, mais je pense que le conseil municipal sera relativement court, donc il ne devrait pas y avoir de problème de dépassement d'horaire. Avant de commencer la séance officielle, on avait, à la demande de Jacques, on va vous parler en entrée, du Covid, parce que voilà, on en parle toujours un peu à la fin et on se dit que c'est peut-être quand même relativement important et que donc Jacques va faire le point du, du Covid, des nouvelles règles, donc à partir de demain, il faudra être rentré à 18h à la maison. Un petit rappel aussi, c'est que quand même le masque, même s'il nous casse les pieds, est le principal moyen d'éviter de se retrouver enfermé chez soi pour encore une catastrophe économique. Donc voilà, mettez le masque. J'ai demandé à ce qu'il y ait un nouveau message sur le tableau du milieu. Voilà, je laisse la parole à M. l'adjoint à la santé.
Bien. Alors, je voulais vous donner quelques informations essentiellement sur la vaccination qui finira par un jour. Il s'agit d'informations officielles et valides à l'heure d'aujourd'hui, mais qui pourront évoluer. Peut-être que dans une heure, ça sera plus ça, mais pour le moment, c'est ça. Un seul surcongélateur en Drôme à Valence. À partir de là, deux flux de distribution. Un flux A qui ne passe pas par l'hôpital. Il concerne la médecine libérale et les établissements privés. Une plateforme Drôme Sud pour les plus de 75 ans va être mise en place à Montélimar sous l'égide du maire. Une réunion à ce sujet va avoir lieu demain matin. La presse parle d'un vaccinodrome au Palais des Congrès. Ça, c'est l'information officielle. Je vous ajoute là-dessus quelques informations complémentaires que j'ai appelées non stabilisées parce qu'elles ne sont pas véritablement encore officielles. Mais bon, deux super congélateurs en plus, dont un à Montélimar. Les infirmiers libéraux pourraient vacciner à domicile les plus de 75 ans sans présence de médecin et peut-être aussi les pharmaciens. Ceci serait facilité par l'emploi du vaccin Moderna, c'est celui qui est congelé à moins 20 degrés et non pas à moins 80. Rappelons par ailleurs que nationalement, il est conseillé, aux plus de 75 ans, de prendre rendez-vous dès le 14 janvier sur la plateforme santé.fr pour une vaccination à partir du 18 janvier. Ce rendez-vous concernerait sans doute le Palais des Congrès. Il serait également possible d'appeler un numéro national qui n'a pas encore été communiqué ou d'appeler le centre vaccinal local. Là, je fais une petite note. Je pense que ce site et ce téléphone risquent d'être un peu encombrés. J'ai entendu dire qu'en Allemagne, il fallait 4 heures au téléphone pour se faire inscrire. Par ailleurs, Olivier Véran a évoqué des bus qui pourront circuler, notamment dans les zones rurales, pour permettre au plus grand nombre de se faire vacciner. Je rappelle que ces informations-là que je viens de vous donner, à partir d'où j'ai dit où elles sont non stabilisées, ne sont pas encore officielles. Un flux B concerne les hôpitaux publics. Valence distribue directement. En ce qui concerne Belfry, une opération vaccination est prévue jeudi pour les résidents volontaires de l'EHPAD de Dieulfi, l'EHPAD hôpital. Nota, ceux qui ont eu la Covid ne seront pas vaccinés. Info sur la situation proprement dit à Dieulfi, tant du côté médecin que du côté labo ou pharmacien, il ne semble pas y avoir sur Dieulfi actuellement un emballement de la pandémie. Toutefois, c'est un peu tôt pour un éventuel accroissement dû au jour de l'an. Et par ailleurs, il faut être très prudent, comme le rappelle Marie-Laure Simon, en octobre, tout était stable et en 3 jours, une accélération notable a eu lieu. Je termine en m'associant au propos de M. le maire, respectez les mesures barrières, plus particulièrement, masquez-vous. Et si quelqu'un vous dit, jette ton masque, on t'a reconnu, non, vous gardez le masque. Aérez les locaux, le masque, portez-le sur le nez et la bouche et non pas à l'oreille pendante, comme on le voit parfois sur le marché.
Merci Jacques. Voilà, on va rentrer donc dans l'ordre du jour avec le point numéro 1, l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 14 décembre. Voilà, on a vu avec nos collègues de l'autre côté de la table, il y a eu quelques phrases qui ont été changées à votre demande. Ça va, vous les avez derrière? Tout va bien? Ah.
Il y a en particulier l'intervention qu'on t'avait demandé de modifier, qui était l'intervention par rapport à, au rôle de Patrice et à cette intervention, la rencontre avec le conseiller régional. Je ne l'ai pas revu, ça.
Non, il n'y est pas, on va vérifier.
C'était le prêt, Joël.
Le point numéro 7, si vous voulez bien.
Point numéro 7, c'est ça.
Ça concernait le...
Un échange s'engage sur la nécessité d'une loyauté partagée entre minorité et majorité. La conclusion de la discussion permet de se mettre d'accord sur la désignation des candidats. On a rajouté cette phrase. Ouais, on n'avait pas très envie de rentrer dans les détails. Bon, mais voilà, c'était... Il y a eu cette discussion sur la loyauté et qui a quand même été conclue par un accord, entre guillemets, et par le fait que Sylvain était...
Oui, il n'y a pas de souci par rapport à cet accord, mais c'est vrai qu'on a été, pris quand même un petit peu de court. Et je vous avouerai que moi, à titre personnel, ça m'a un petit peu travaillé, quoi. Donc alors, soit on en parle maintenant, soit en question diverse, c'est comme vous voulez, je ne vais pas m'imposer. Mais très clairement, c'est... Je pense que la façon dont ça a été dit, ça n'a pas été super élégant. C'est très clairement un manque de confiance, voilà, on l'a bien compris. Mais c'est surtout une réflexion qui aurait pu être faite en réunion préparation, et non pas au conseil municipal. Donc nous, ce que l'on souhaite, et j'en suis quand même, le porte-parole de ce groupe, c'est de faire un petit peu le retour par rapport à cette réflexion. Tout d'abord, vous avez bien compris qu'on était là pour faire avancer les choses. Alors, on n'est pas là pour être contre tout ce que vous allez dire. On n'est pas là pour être toujours dans l'opposition, etc., etc. Pas du tout. Je crois qu'on l'a très bien prouvé depuis le début du mandat. On s'est quand même investi, tout ce temps qu'on est, dans le secteur économique, dans le secteur culturel. Moi, à titre personnel, dans le secteur des sports, enfin, le milieu des sports. Et là, je regrette tout très clairement qu'en 7 mois, j'ai eu droit qu'à 2 petites réunions. En fait, c'était des rendez-vous et pas des réunions. Et très peu d'informations. Alors, j'espère qu'il s'est passé d'autres choses pour nos associations. Parce qu'ici, il s'est passé que 2 petits rendez-vous. Je trouve que c'est un peu embêtant. Donc, très clairement, ça me... Voilà. Et c'est pas faute de vous demander, hein, des comptes rendus de réunion ou ce genre de choses. Ensuite, on nous reproche, et là, c'était... Enfin, vraiment ciblé sur Patrice, on nous reproche de nous exposer dans la presse. Moi, très clairement, ça me gêne, quoi. Je veux dire, être dans l'opposition, ça ne veut pas dire disparaître des radars, quoi. Ça ne veut pas dire ne plus vivre, ne plus rencontrer certaines personnes, ne plus se couper très clairement des gens avec qui on peut avoir des affinités, quoi. C'est pas ça. Très clairement, je sais pas moi, ça me gêne, quoi. On n'est pas là à attendre que vous vouliez bien nous donner un os à ranger ou vous dire ben, « faites ci, faites ça ». Non, je crois qu'on est sorti quand même de l'esprit scolaire et militaire et qu'on n'est pas là à attendre qu'on nous dise « faites ci, faites ça ». On est là aussi pour représenter très clairement une partie du village et de la population, bien sûr. Je vous rappelle, hein, on est quand même, tout comme vous, on est élus. La voix de Sylvain Jean a le même poids que la voix de qui autour de cette table. De la même façon, la voix de Patrick, de Nathalie Onelia, c'est exactement la même chose. Et puis, n'oubliez pas, être élu, c'est d'avoir des devoirs, mais aussi des droits. Et on a aussi des droits. On a aussi des droits de voir des gens, on a le droit de s'exposer, on a le droit de donner nos impressions. Voilà, je pense que c'est important que vous sachiez, quand même. Et puis, pour finir, parce que bon, après, je ne vais pas non plus rentrer dans le débat et dans le négatif, mais on a bien compris que vous étiez majoritaire, on le sait, il n'y a pas de souci, on l'a reconnu, on vous l'a dit depuis le départ, on est là pour vous donner un coup de main, on est là pour donner un coup de main à la population, etc., etc. Mais comprenez aussi qu'on a le droit d'exister, très clairement. Et puis là, vraiment, pour terminer, alors pour moi, c'est une bricole, mais très clairement, c'est, je trouve que quelque part, c'est un peu mesquin, quand même. Le très beau bulletin municipal que vous avez édité, il est magnifique, super, très bien, bravo. Par contre, nous mettre des photos beaucoup plus petites que les autres. C'est là aussi preuve que vous faites vraiment une démarcation où est le droit. Hein. Mais très clairement, c'est faire preuve aussi qu'il y a une grosse différence entre la majorité et l'opposition, et non pas la minorité. Voilà ce que je tenais à dire au nom du groupe. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais je pense qu'il était important de le dire. Merci.
Je vais juste réagir sur le deuxième point, sur la photo du conseiller régional qui est dans le journal avec Patrice, et qui, Patrice en tant que conseiller municipal, hein, c'est vrai que j'ai réagi en disant, mais le conseiller régional qui vient reçu par un conseiller municipal, et je suis pas au courant, il ne s'agit pas de vous interdire de faire quoi que ce soit. Il s'agit d'avoir simplement la correction, de dire, bah, tiens, voilà ce qui se passe, il y a quelqu'un qui souhaite pas, ou qui souhaite éventuellement pas me recevoir, hein, ou que je ne le vois pas, pas de problème. Mais voilà, c'était juste un problème de correction. Hein, et c'est vrai qu'on aurait pu dire dans la réunion avant le conseil municipal, c'est sorti là, parce que c'est sorti là, c'est pas, tout n'est pas tout calculé. Après, sur les deux autres points, je ne sais pas s'il y a une raison au fait que les photos, c'est vrai que les photos sont un peu plus petites.
Je sais pas, plus informé que moi, puisque c'est toi qui travaille au bulletin municipal.
Alors, concernant les photos dans le bulletin municipal, donc oui, je pense que c'est effectivement une erreur. C'était pas forcément notre volonté de les mettre en retrait. Seulement, on a été un petit peu ricrac au niveau du temps et on a laissé passer, on n'a pas forcément remarqué ça. Donc voilà, moi, je suis un peu désolé de ça.
C'est la graphiste qui a fait ça. Et on n'a pas corrigé parce qu'on était trop juste. Voilà, c'est la graphiste qui a fait ça et on était tellement juste que du coup on n'a pas corrigé et on s'est tous dit après en disant mince, voilà. Donc on vous présente nos plus
tard. Je demande des excuses, mais c'était. Je pense qu'il était important de le lire.
On
le voit ça, mais très clairement, ça me fait rigoler.
On les donne quand même, les excuses.
Mais je pense que, oui. Mais je pense quand même, enfin, on a quand même des retours de la population. Quoi.
Ça va. Nous aussi.
Moi, c'est ok, bien. Donc ce. Ce procès-verbal du dernier conseil, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est pour? Merci. Donc il y a 4 abstentions et le reste est pour. Merci bien. La délibération numéro 1 concerne l'emprunt de 900 000 euros que nous sommes amenés à voter. Donc je vous rappelle que c'est lié au financement insuffisant sur les programmes d'investissement de deux programmes qui ont été des gros programmes des dernières années, le passage de l'îlot Pelin, de la menuiserie Pelin, et le parking du terrain Roux. Donc, dans le cadre des crédits de recettes proposés en section d'investissement de 2020, un emprunt à hauteur de 900 000 euros est nécessaire. On a consulté 4 banques. La plus intéressante, c'est la Caisse régionale de crédit agricole de Sud-Rhône-Alpes. Sur 15 ans, le taux d'intérêt annuel est de 0,2988, c'est-à-dire moins de 0,3%. Avec des échéances annuelles constantes de 61 444 euros. La première échéance ce sera le 25-5-2021 et le montant total des intérêts représente 21 663,41. Il y a des frais de dossier de 0,1% du montant, soit 900 euros sur lesquels on a essayé de discuter en vain. J'ai pas le calcul ici de la comparaison avec la ligne de crédit, mais c'est beaucoup plus intéressant que la ligne de crédit. La ligne de crédit était à 0,78% et il y avait des frais du même ordre, de 0,1%. Voilà, donc je précise en outre qu'aucune lettre d'observation de la Chambre régionale des comptes ne lui a été adressée et qu'aucun recours devant le tribunal administratif n'a été notifié. Donc, je vous demande d'approuver cette proposition. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, une petite question. Alors, 900 000 euros, on a bien compris que c'était pour rembourser cette fameuse ligne de crédit de 500 000 euros, plus pouvoir payer les fameuses factures, Sorodi, syndicat des eaux, etc. J'arrive pas à comprendre pourquoi on emprunte 900 000 euros sur 15 ans. Dans la mesure où, normalement, ces 500 000 euros, cette ligne de crédit doit être remboursée l'année prochaine. Une avance de trésorerie, une avance de TVA, plus un retour de subvention. Pourquoi on va s'endetter sur 15 ans, sur ce somme-là? J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire un crédit relais plutôt que de s'endetter sur 15 ans? Parce que s'endetter sur 15 ans, c'est endetter le groupe qui est autour de la table, c'est endetter également le groupe qui sera là dans quelques années. Les deux prochains. Donc voilà, ma question c'est pourquoi partir sur 15 ans sur ces fameux 500 000 et non pas 400 000 et trouver une solution autre pour les fameux 500 000 qui devraient nous rentrer sous peu.
Tu es d'accord sur les 400 000
Sur les 400 000 bien sûr, bien sûr. Il y a quand même des entreprises ou autres qui.
Alors après, sur 500 000, la vraie question c'est quelque chose qui est fait pour très longtemps, puisque c'est un parking et une. Et une route, en fait, un aménagement de route, ça nous semblait assez justifié, enfin, ça nous semblait justifié d'emprunter sur 15 ans pour des travaux comme ça. Effectivement, on aurait pu refaire un emprunt à court terme sur une ligne de crédit nouveau, 500 000 euros, ça s'appelle la galerie, à un moment,
Non, c'est pas ça en fait. C'est que ces fameux 500 000, qu'on soit bien d'accord, c'est quelque chose qui doit rentrer en comptabilité, qui doit rentrer en trésorerie, puisque c'est le remboursement de la TVA plus les subventions. Donc c'est quelque chose qui doit rentrer sous peu, c'est ce que je veux comprendre. Voilà. Donc pourquoi les emprunter sur 15 ans? Donc quelque chose doit nous rentrer dans un an.
Je peux répondre, tu préciseras si tu veux. Non, mais c'est simplement ça. Bon, ça correspond, cette somme correspond. À la capacité d'autofinancement de la commune, c'est-à-dire qu'on aurait pu mobiliser la capacité d'autofinancement de la commune autour de ce remboursement par le pied d'un prêt-relais qui aurait duré quelques mois, tout à fait. Sauf qu'il fallait à ce moment-là s'engager à dire aux électeurs et à dire à tout le monde notre capacité d'autofinancement cette année est zéro, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la possibilité autour d'un emprunt généralement de payer les 20% ou les 30% qui manquent de subventions, capacité d'autofinancement zéro, c'est-à-dire que pendant un an, on s'assoit tous sur une chaise, on se regarde et on fait rien.
La TVA qui est remboursée chaque année sur les travaux qui ont été faits deux ans avant, c'est une forme d'autofinancement des projets suivants, c'est-à-dire que l'intérêt de cette TVA, c'est qu'elle permet d'alimenter le budget deux ans après, et ça permet d'alimenter les investissements suivants. Donc, en fait, c'est...
Je voyais pas ça comme ça, moi, en fait. Très clairement, moi, un emprunt, c'est quand on lance un investissement. Là, c'est pas un investissement. Pour moi, c'est pas un investissement. C'est quelque chose...
On est en train de travailler. On en reparlera sur les prochains. Pour les prochains conseils municipaux, mais on est en train de regarder les budgets de l'année prochaine, le budget cette année, 2021. C'est clairement, quand tu vois l'équilibre du budget et du compte administratif, donc des comptes qui ont été financés l'année dernière, en 2020, il y a un trou de 900 000 euros. C'est-à-dire que c'est vraiment pour financer ces travaux qu'on emprunte.
Mais ça, je le comprends bien, mais c'est la durée qui me gêne, c'est tout. C'est qu'on est en train de gréver sur le temps de... Ouais. C'est ça qui peut passer. Bien sûr qu'on est obligé des avances.
On aurait pu faire 400 000 sur un temps et 500 000 sur un autre.
Oui, je
pense. Ouais. Bon, pour un parking et pour une route, bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
C'est-à-dire que les taux d'intérêt...
Actuellement, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'ils vont... Il faut pas se priver, c'est-à-dire que nous, on va avoir, si vous avez regardé, vous avez dû avoir, Patrice, tu as demandé les tableaux d'amortissement de la commune. On a des emprunts qui sont sur des durées échelonnées,
actuellement, hein, sur, de aujourd'hui. Alors on a des emprunts dans le capital remboursés à hauteur de la moitié, donc qui seront finis dans 5 ans, dans 6 ans, d'autres dans 8, d'autres dans 10. Bon, ça, c'est à envisager dans un échelonnement global. C'est-à-dire que si on se met, enfin, dans une gestion d'entreprise, c'est pareil. On fait des tableaux d'amortissement et on répartit les investissements sur le nombre d'années qui correspond à une globalité de vision d'investissement sur plusieurs années et d'essayer d'établir un lissage maximum pour que les remboursements d'emprunt soient réguliers au fil des années qui vont s'écouler. Et c'est en termes de flux financiers, c'est une évidence par rapport à nos rentrées et nos sorties d'argent. Les taux d'intérêt seraient extrêmement élevés. Je dirais oui, effectivement, il y a débat. Là, avec des taux d'intérêt comme ça, non, on lisse les investissements sur plusieurs années. Je vous rappelle que c'est des investissements qu'on n'a pas fait nous, hein, et qu'on ne les conteste pas. Ils ont été faits pour des projets qui sont somme toute intéressants, avec des créations de places de parking, de fluidité de circulation, donc voilà, qui sont pas mal. Après c'est effectivement, pour les vieux fitois, pour les contribuables, il est beaucoup plus intéressant de les payer sur 15 ans. C'est pas pour nous, c'est pas pour les suivants. C'est pas, le problème ne se pose pas ça. Le problème, il se pose en termes de fluidité financière sur les 15 années à venir. Voilà, je suis assez clair.
Mais moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous, on n'est pas contre le fait qu'il y ait un emprunt. La chose qui nous importe.
On n'est pas contre le fait qu'il y ait un emprunt, vous l'avez bien compris, c'est la durée qui me gêne, c'est tout, c'est pas...
C'est lié à l'objet,
en fait. J'ai bien compris, après...
Écoutez, bon, je pense qu'on va...
Juste te dire que, bon, emprunter pour rembourser, financer de la TVA, c'est... On fait un emprunt pour financer l'impôt. Attends, un retour d'impôt de taxe. C'est ça qui est un peu... voilà, C'est étonnant.
L'emprunt aurait dû être fait il y a un an, c'est clair. Hein. Au mois de mars, c'est au mois de février, puisque la ligne de crédit a été ouverte en février. C'est évident, hein, on corrige quelque chose qui était quand même un décalage, enfin un défaut.
Il faut voir si on remonte sur le mandat de précédent, d'accord. Moi, je suis allé regarder à la DGFiP. Ça a toujours existé, ça. Alors, soit Madame le maire était très forte pour... puis elle connaissait ça par cœur, enfin, c'est son métier, quelque part. Mais je veux dire, on les voit, ces fluctuations, sur les années précédentes. Donc, la question, c'était de savoir, peut-être, comment elle faisait pour arriver à jouer sur cette ligne de récupération TER. Il fallait s'inspirer peut-être de ça. Je ne dis pas qu'elle a raison.
Non, moi, je te coupe parce qu'on ne va pas passer toute la soirée là-dessus, mais il y a eu des lignes de crédit depuis toujours. Ces lignes de crédit, je vous ferai le tableau la prochaine fois, on l'exposera. On en prend un petit bout, on en rembourse rapidement, on en prend un autre petit bout. C'est vraiment pour la trésorerie, c'est-à-dire on a des revenus qui sont fluctuants en fonction des saisons, en fait, des mois. Et on a des sorties qui sont fluctuantes, et quand les deux ne collent pas, et bien on est obligé de faire cette espèce d'exercice de boucher les trous pour les reprendre des rochers, les reboucher. Il y a une année où elle ne s'en est pas servie comme ça, c'est l'année 2020, où elle a ouvert la ligne de trésorerie, pris 200 000, 3 jours après 200 000, 7 jours après 100 000. Donc en 10 jours, les 500 000 étaient pris, et pas moyen de les rembourser depuis. Donc là, c'est plus une ligne de trésorerie, c'est un emprunt déguisé.
Christine était prête à expliquer pourquoi. Elle a demandé un rendez-vous. Voilà. J'aurais aimé entendre ce qu'elle avait à dire. Ou du moins que je lui répète ce qu'elle avait à dire.
Est-ce que quelqu'un est contre cette proposition d'emprunt? Ok. 4 contre, quelqu'un s'abstient? Tout le monde est pour? Merci bien, tout le monde est pour. Bisous. La deuxième délibération concerne le règlement intérieur et le Voilà, le règlement intérieur est donc un texte qu'il faut adopter pour les communes au-dessus de 1000 habitants et qui est une règle qui prévoit, qui arrange les relations à l'intérieur du conseil municipal de la vie démocratique. Voilà. Donc, à chaque nouvelle équipe municipale, il faudra reprendre ce texte. Et donc, on vous propose de le regarder ensemble. Je rappelle qu'il a été fait, qu'il a été discuté avec les quatre membres de la minorité, et que donc il y a un certain nombre de choses qui ont été revues suite à votre demande. Jacques, je te laisse la parole. Merci.
Oui, alors je précise bien en effet que ce n'est pas la modification de règlement intérieur, il n'y en avait pas précédemment, puisque nous n'étions pas concernés à moins de 3500 habitants. Par contre, maintenant, c'est passé à 1000 habitants, donc il est obligatoire de faire un règlement intérieur, lequel sera revu, éventuellement pourra être modifié dans le cours de notre mandature, mais qui surtout sera revu, réapprouvé à la mandature précédente. Donc, il y a 7 chapitres. Réunion du conseil municipal, disposition obligatoire de règlement intérieur, commission municipale et commission consultative, tenue des séances du conseil municipal, débat et vote des délibérations, compte rendu des détails des débats et des décisions et dispositions diverses. Alors, on ne va pas voir entièrement ligne par ligne, parce que c'est quand même assez, il y a quand même 13 pages. On pourrait voir la première. Voilà. Donc, le premier chapitre concerne les réunions du conseil municipal qui se réunit une fois par trimestre, légalement, mais nous, on a pensé que 6 réunions par an, c'était pas mal. Convocation, bien, elle est accompagnée. La convocation est adressée 3 jours francs au moins avant ce dernier nom. Maintenant, il est coutumier de faire ça par voie dématérialisée. Les conseillers municipaux doivent en accuser réception. Toutefois, si quelqu'un voulait une convocation par écrit, il pourrait en faire la demande. L'ordre du jour est fixé par le maire. Il est reproduit sur la convocation. Il est affiché en mairie dès son envoi. L'accès au dossier, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers. Alors là, on a apporté une petite précision des dossiers papier. Tout simplement, il est tout à fait normal que les dossiers ne sortent pas de la mairie, parce que ensuite, s'ils sortent, on n'est pas trop sûr quand est-ce qu'ils vont revenir. Dans tous les cas, les dossiers, de toute manière, sont tenus en séance à la disposition des membres de l'Assemblée. Les questions orales. Alors, on précise bien que ces questions orales, c'est des questions orales dans le cadre de la réunion des conseils municipaux. Elles portent sur des sujets d'intérêt communal. En principe, elles ne donnent pas lieu à un débat ni à un vote, sauf s'il y avait une demande de la majorité des conseillers. Lorsque le texte des questions orales n'a pas été adressé 24 heures avant la séance, la réponse pourrait éventuellement être reportée au conseil municipal suivant. Un deuxième chapitre, c'est celui des dispositions obligatoires du règlement intérieur. La consultation des projets de contrat de service public. Alors là, j'ai ajouté, suite à la rencontre qu'on a eue avec la minorité jeudi dernier, j'ai ajouté une petite précision, parce qu'on ne voyait pas trop ce que c'était qu'un contrat de service public. C'est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont il avait la responsabilité à un délégataire privé ou public éventuellement aussi. Le meilleur exemple, c'était la délégation qu'il y avait pour le camping il y a quelques années. Voilà, ça amène les précisions. Je pense que je me tourne du côté de la minorité. Vous avez... Ouais, c'est OK. Voilà. Donc, les projets sont consultables en mairie, aux heures d'ouverture, bien sûr, à compter de l'envoi de la convocation et pendant les jours qui précèdent le conseil. Toute question, toute demande d'information complémentaire auprès de l'administration communale devra se faire sous le couvert du maire ou de l'adjoint qui est en charge du dossier. On peut passer au suivant. Donc, les questions écrites. Chaque membre du conseil peut adresser au maire des questions écrites, bien sûr, sur toute affaire ou tout problème concernant la commune. expression de la minorité dans les publications municipales. Je rappelle que nous sommes là dans ce qu'il est obligatoire de mettre dans le règlement. La répartition de l'espace d'expression réservé au conseil minoritaire, une demi-page dans le conseil bulletin municipal. Un espace d'expression sera disponible pour la minorité dans les publications d'information municipale. Les documents sont remis via un support numérique à l'adresse contact mairie, au plus tard à la date communiquée pour la préparation de chaque numéro. Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés. Bon, il y a un petit paragraphe sur le fait qu'on pourrait éventuellement modifier un texte qui ne respecterait pas, qui aurait un contenu diffamatoire, outrageant, etc. Et en informer bien sûr les auteurs. Tout texte qui comporte des risques de troubles à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité publique, ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement, bon, etc. Là, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Hein. Bon, peut-être on pourrait déjà s'arrêter là. Est-ce qu'il y aurait des remarques sur ces deux premiers?
Déjà, vous remercier d'avoir pris en considération nos remarques. Alors, pour être très transparent et surtout pour le public, il faut savoir que ces documents, on les a eus mercredi pour jeudi, donc on a regardé très rapidement. Il faut savoir, oui, c'est une première version d'un règlement intérieur. Alors, la création d'un règlement intérieur, c'est toujours compliqué, hein, que ce soit dans n'importe quel sujet. Donc c'est vrai qu'il faut...
On est à la version 13.
Oui, non, j'allais dire, nous on voit la version à voter, mais il y a beaucoup de versions. Sur les premières remarques qu'on avait émises, donc merci. Après, c'est vrai qu'en relisant un peu ce règlement intérieur, et surtout sur ce paragraphe-là, la notion de censure sur des propos qui peuvent être outrageants, diffamatoires. Donc là, on ne parle que de la minorité. Donc, M. Bailly, il censure, puisqu'il enlève le texte. Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, c'est que...
On voit bien...
On voit bien, non ?
Si. Non. Stéphane, merci. Voilà, donc on parle de quelque part de modérer la parole de la minorité.
Est-ce qu'on comprend bien ? Attention, c'est pas la parole de la minorité, c'est de toute manière tout.
Si on peut remonter expression de la minorité dans la publication municipale, donc c'est l'article 8.
Oui, en effet, j'avais pas fait la relation tout simplement parce que c'est la version qui est concocté par l'Association des maires de France. Mais en effet, on pourrait prendre ça pour une censure de la minorité. Moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Hein. Moi, je l'ai pris tout écrit, quel que soit l'auteur. Voilà. Alors bon, peut-être qu'il faudra en effet faire une petite modification sur ce sujet pour bien faire apparaître que c'est pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas que pour la minorité.
Voilà, non, mais voilà, c'est que je parlais que le fond de la chose... Ça sera pour les conseillers municipaux. Mais voilà, je veux dire, dans...
Oui, je comprends parfaitement la remarque. Je n'avais pas remarqué que c'était dans l'expression de la minorité.
Et ce texte, ce règlement intérieur, voilà, on voit que c'est une première version et qu'il faudra travailler pour qu'il soit le plus possible. C'est un règlement intérieur.
Non, mais ce qu'on fera, on la lira de telle manière que ce ne soit pas l'expression, quitte à faire un article 9, de manière à bien faire voir que c'est pas...
Est-ce qu'on peut enlever de la minorité dans le titre ?
Non,
parce que il y a l'expression disponible pour la minorité dans la publication d'informations.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute un article ?
Oui, je pense. Après, quand ça commence, les deux mots... Document destiné, on pourrait mettre article 9.
Oui.
8 bis, voilà. Donc éventuellement, tout à l'heure, on pourra passer au vote et, en tenant compte du fait qu'il y aura cette modification qui sera faite. Bien. Alors, chapitre 3. Voilà. Les commissions municipales. Donc, les commissions municipales peuvent être formées pour étudier les questions qui sont soumises au Conseil. Je fais une remarque ici, c'est véritablement les conseils municipaux. Or, nous, vous allez voir, on n'a pas décidé de travailler avec des véritables commissions municipales telles qu'elles sont définies là. La seule qui correspond, parce qu'elle est obligatoire, c'est la commission d'appel d'offres, qui a été constituée d'ailleurs dès le 10 juillet, de manière à ce qu'on puisse examiner les offres qui étaient faites. Donc, les autres commissions sont dites consultatives. Là aussi, c'est la réglementation qui prévoit cela, parce que les commissions consultatives vont pouvoir avoir des élus, mais aussi des habitants, alors que les commissions telles qu'elles sont définies au-dessus, là, les commissions municipales ne peuvent avoir que des élus. Voilà. Alors, donc, on a créé 8 commissions consultatives. Information et transparence, environnement, énergie, mobilité, biodiversité, alimentation, économie, tourisme, emploi et production locale, urbanisme et cadre de vie, santé et solidarité, éducation, enfance, jeunesse, culture, animation, patrimoine, sport et vie associative. Voilà. Donc chaque commission est co-présidée par deux membres du conseil municipal, désignés par le maire sur la proposition du conseil municipal. Elle est composée d'élus et de personnes extérieures à l'Assemblée communale impliquées sur les sujets soumis à la commission, des gens qui s'intéressent quand même à ce que la commission débat. Les coprésidents veillent à la présence et à l'assiduité d'un nombre suffisant d'habitants. Ils sont responsables de la rédaction des comptes rendus des travaux. Chaque conseiller municipal a la faculté d'assister aux travaux de toute commission consultative. Une attention particulière est apportée au calendrier afin que deux commissions consultatives ne soient pas convoquées en même temps. Ça, c'est un risque qu'il faut...
Ça ne sera pas facile.
Non, ça ne sera pas facile. On s'en est déjà aperçu. Voilà. Les avis et comptes rendus émis par les commissions consultatives sont transmis au comité de pilotage. Et on va voir ce que c'est que le comité de pilotage. Il est défini juste après. Voilà. Alors, il faut bien noter, c'est clair, les avis émis par les commissions consultatives ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. Ensuite, ça sera débattu au conseil municipal. Et c'est le conseil municipal qui prendra ou qui prendra pas. Comité de pilotage. Donc, de manière à rendre tout ça un peu plus transparent, je fais un peu par référence, si vous voulez, à ce comité de pilotage. Dans les précédentes mandatures, généralement, les élus de la majorité se réunissaient tous les lundis et préparaient le conseil municipal. Nous, on a décidé que l'on préparerait le conseil municipal à travers des délibérations qui ont été prises dans le comité de pilotage où tous les élus peuvent participer et où le public peut être présent à simplement la seule condition qu'il n'intervient pas, il ne parle pas. Donc, comité de pilotage est créé pour favoriser la coopération entre citoyens et élus. Il est composé de l'ensemble des élus qui veulent bien y participer, il n'y a pas une obligation de participer, hein. Et ça peut être un jour je participe, mais le prochain comité de pilotage je ne participe pas, en fonction de l'ordre du jour, de deux délégués des commissions et de deux délégués des groupes de travail concernés par la discussion. Je vous prends un exemple. Vous avez une association de parents d'élèves qui, dans le cadre de la commission jeunesse, a créé un groupe de travail pour voir un petit peu comment fonctionnait la crèche, qu'est-ce qu'ils avaient à faire remarquer sur... la crèche, c'était... Oui, c'est l'intervention. L'école primaire, l'école scolaire...
La cantine. Etc.
Donc, ils ont créé un groupe de travail. Ce groupe de travail a rapporté à la commission et ensuite, si la commission a décidé de transférer ça au comité de pilotage, donc ça va être présenté par deux membres de la commission en question et deux membres du groupe de travail, parce que dans chaque commission, il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5 groupes de travail. Voilà. Donc, le comité de pilotage est composé de l'ensemble des élus, de deux délégués des commissions et de deux délégués des groupes de travail qui sont concernés par la commission. Voilà. avec un public qui est silencieux. L'ordre du jour et la date sont publiés à l'avance, avec un délai minimum d'une semaine. Le fonctionnement du comité de pilotage a obéi à des règles fixées par les élus, durée, prise de parole, choix d'animateur, questions orales, écrites, etc. Sur chaque dossier, la position du comité est arrêtée avec l'accord le plus général possible. Prennent part au vote final les élus et les délégués concernés par le projet. Petite pause, voilà, on monte. Donc, à l'issue du vote, trois solutions sont possibles. Accord sur les propositions du groupe de travail, renvoi du dossier au groupe de travail et demande d'une étude complémentaire, abandon motivé. Quand les propositions du groupe de travail ont été approuvées par le comité de pilotage, elles sont soumises au conseil municipal afin de le faire valider, le faire voter, et je rappelle bien que le conseil municipal n'est nullement engagé tant qu'il n'a pas délibéré. Alors, il peut proposer aussi ce comité de pilotage qu'une question donne lieu à une consultation des citoyens. Cette proposition, une fois adoptée, est transmise au conseil municipal, mais là aussi, c'est seul le conseil municipal qui peut décider, en effet, qu'on va transmettre, on va faire une consultation des citoyens là-dessus. Alors, peut-être un petit arrêt, y a-t-il des remarques, des questions? Oui.
J'ai une remarque sur la possibilité pour le public d'aller dans ces réunions. Parce qu'il se trouve, par exemple, chez nous, on est plusieurs salariés, sauf moi. Alors, moi, les réunions de la culture, ça a lieu le matin, c'est parfait. Mais mes petits collègues qui bossent ne peuvent pas assister aux commissions parce que c'est à 10h du matin ou à 14h qu'ils travaillent. Donc ça serait peut-être bien que ça soit noté que, bien sûr, c'est très bien que le public puisse assister aux commissions, mais encore faut-il que ce soit sur des horaires compatibles avec les salariés, enfin avec les gens qui votent.
Oui, on n'a pas défini les horaires. Hein.
Non, mais ce serait peut-être...
On n'a pas encore eu le comité de pilotage. Et je pense que le comité...
Non, je
ne
parlais pas du comité. Je parlais pas de la commission.
Ouais. Les commissions.
Les commissions, il n'y a pas eu de comité, à ma connaissance, il n'y a pas eu de comité de pilotage.
Non, on n'en a pas encore.
Donc, je parle juste des commissions de travail.
Bon, je pense que c'est à prendre en considération par chaque coprésident de s'efforcer de réunir les commissions à un horaire qui soit compatible avec ceux qui travaillent. Je ne sais pas, moi, j'ai pas d'exemple. Moi, le seul exemple que j'ai, c'est ma propre commission, où le problème d'ailleurs se posait, puisqu'elle est composée essentiellement de médicaux ou paramédicaux. Et, bon, ben, on a à leur demande, et puis on a très bien compris, on a fixé la réunion de la commission à 18h.
Tu peux dire un mot si tu veux, parce qu'avec Camille, donc, on est coprésidente de la commission éducation en jeunesse, on y a beaucoup réfléchi parce que, en fait, c'est très difficile. Nous, par exemple, le soir, on ne peut pas avoir de parents, à l'inverse, parce que les parents, ils sont avec leurs enfants. Donc, en fait, on a surtout décidé en fait, de varier au maximum pour essayer d'avoir le plus de monde possible, d'atteindre le plus de monde possible. Voilà. Et voilà, après, c'est vraiment à chaque coprésident de faire en sorte qu'il être le plus accessible possible. Mais dans tous les cas, on ne pourra jamais contenter tout le monde. Non, on a beaucoup de...
Oui, et d'ailleurs, on a bien eu deux exemples de commissions qui étaient totalement en contraire. Parce que la commission santé solidarité, au contraire, c'est à partir de 18h, parce que sinon, les médecins ne peuvent pas être là. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques?
Moi, j'en ai juste une. Il y a quand même des parents qui travaillent. Ne pensez pas qu'ils ne viendraient pas à des réunions à 18h. Bien sûr que si on leur met une réunion tous les jours, ils ne vont pas venir. Mais quand on va débattre d'un sujet qui les intéresse, je suis désolée, les gens font l'effort de venir quand ça les intéresse.
Non, mais l'idée, c'est de varier. Le but, c'est de varier.
Pour l'instant, ça ne se varie pas. Moi, je sais que je ne peux pas assister à ces réunions, hein, parce qu'elles ne sont pas dans les horaires où je peux y aller. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave.
Mais il ne faut pas hésiter peut-être à faire des remarques au co-président et à dire attention, parce que moi, est-ce que la prochaine fois, la réunion ne pourrait pas être à telle heure, etc. Voilà. Je crois que c'est un peu. Voilà, ça déborde, c'est dans l'esprit d'application de ce règlement, mais ce n'est pas dans le règlement intérieur lui-même, c'est l'esprit d'application. Voilà. Et je pense que ça sera noté au compte-rendu, ces remarques. Chapitre 4, tenue des séances du conseil municipal. Bon, il y a l'histoire des pouvoirs, bon, ceux qui sont absents, il n'y a rien changé là. Secrétariat de séance, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Alors, par, c'est un membre, un conseiller qui, est, qui assiste le maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, etc. Après, ça monte. Alors, accès et tenue du public, là aussi, aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. Bon, c'est une formule, ça. Hein. Voilà, c'est pour éviter, si des fois il y avait un problème un jour, là, au moins, attention, on peut dire, voilà. Mais il est bien évident que là aussi, l'esprit d'application de ça, bon. Toutes les marques, alors ça, par contre... Le public doit observer le silence durant la durée de la séance et toute marque d'approbation ou désapprobation sont interdites. Voilà. Enregistrement des débats, là aussi on a un petit peu innové, dans la mesure du possible, parce qu'on a prévu, sait-on jamais, qu'on n'ait plus le matériel ou que le matériel soit tombé en panne, à ce moment-là, bon, on sera un peu coincé. Donc dans la mesure du possible, les séances du conseil et les échanges avec le public après la clôture de la séance. On m'a fait la remarque qu'il y avait des gens qui tenaient vraiment, parce que c'est bien la première fois que l'on entend les questions qui ont été posées par le public après la fermeture de la clôture de la séance. Tout enregistrement de la séance fait l'objet d'une information par son auteur. Donc ça, ça veut dire que les conseillers municipaux peuvent éventuellement faire leur propre enregistrement, mais ils doivent le déclarer au préalable. Bon, alors, s'il y avait un enregistrement vidéo qui est fait, il est rappelé que l'enregistrement vidéo doit être des plans larges et qu'on ne doit pas zoomer sur des personnes de manière à maintenir quand même. Il y a peut-être des gens qui sont là mais qui ne voulaient pas apparaître comme il y en a là. Police de l'Assemblée. Bon, ben, il appartient au maire de faire observer ce règlement. Hein, et les téléphones portables, on le rappelle, hein, devront être paramétrés en mode silencieux. Je vois s'il y a des remarques là, vous avez des remarques sur ce chapitre ?
Ça va ?
Alors, chapitre 5, va pas trop loin, voilà, déroulement de la séance, bon, bah, le maire préside le conseil, etc., bon, il n'y a rien de bien particulier par rapport à ce qui se fait habituellement, il procède à l'appel des conseillers, il fait approuver le procès verbal de la séance précédente, note de rectification, il peut aussi soumettre des... Alors, je sais pas, je crois que c'est une île, là, c'est quelque chose, moi, à laquelle je tiens tout particulièrement, mais je ne sais pas sous quelle formule ça a été fait. C'est lorsqu'une modification du conseil municipal, du conseil municipal a été faite, je pense que la modification, la rectification doit être intégrée immédiatement dans ce PV de conseil. Et non pas comme ça se fait habituellement, c'est sur le PV suivant qu'on dit ah ben oui, on a rectifié, et voilà. Et quand on regarde le PV, bien sûr, on ne regarde pas le PV suivant pour voir s'il y a eu des rectifications. Voilà. Bon, les points d'ordre toujours dans la convocation. Chaque objet fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire, c'est le cas actuellement. Je ne sais pas si le résumé est sommaire, mais enfin bon. À la fin du conseil, le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article. Voilà. Ça, c'est, je vous rappelle qu'il a été donné au début de notre mandature possibilité au maire de faire un certain nombre de choses de manière à ce qu'il n'ait pas à chaque fois à demander. Et en particulier, rentre là-dedans les avances de trésorerie, les lignes de trésorerie de 500 000 euros. Voilà. Et ça, on y tient tout particulièrement, ça doit être rendu compte immédiatement au conseil suivant. Alors, débat ordinaire, aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole s'il ne l'a obtenu du maire. Là aussi, on m'a fait des remarques, que ce soit ça et tout. C'est pareil, ça, c'est pour éventuellement, s'il y a des difficultés, c'est prévu, le maire, et c'est lui qui distribue la parole. Mais il est bien évident que dans l'esprit, vous avez vu comment se déroulent les séances actuellement. Bon, c'est pas appliqué stricto sensu.
Est-ce que je peux donner la parole, tu vois? Ça serait trop.
Je sais pas. Bon, il peut y avoir un rappel à l'ordre, ouais. Ça, c'est... Alors, si, ça, c'est quand même relativement important. Lorsque les opérations de vote, soit on fait une intervention explicative avant le vote ou après, mais pas pendant le vote. Pendant le vote, on vote et il n'y a pas d'observation à faire pendant le vote. Ça, c'est quand même un point assez important. Suspension des séances. La suspension est décidée par le maire. Il lui revient de fixer la durée de suspension de séance. Amendements. Les amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion. Ils doivent être présentés par écrit au maire. Alors là, on m'a dit, ah oui, mais alors les amendements, mais ils doivent être présentés au maire par écrit. Mais oui, mais même dans le cadre du conseil municipal, mais oui, parce qu'il faut pas oublier que certains conseillers peuvent demander une suspension de la séance, elle est accordée ou elle n'est pas accordée. Si elle est accordée, pendant cette suspension de séance, ils vont peut-être rédiger, en effet, par écrit, un amendement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est resté comme ça. Alors, article 21, référendum local. C'est quelque chose qui existe, où certaines communes, même environnantes, l'ont déjà mis en application, je crois à Grignan ou à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le conseil municipal, sur sa propre initiative ou sur proposition du comité de pilotage, peut soumettre à un référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de la commune. Alors, en ce qui concerne les attributions des maires, seul le maire peut proposer de soumettre à un référendum local quelque chose, faire une proposition. Alors, le conseil municipal, dans la même délibération, hein, dans le même conseil, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin et qui ne peut intervenir moins de 2 mois après la transmission de la délibération au représentant de l'État. Ben, les représentants de l'État, c'est le préfet. Et il convoque les électeurs électrices et précise bien sûr le projet d'acte de délibération. Alors là aussi, c'est extrêmement important. Ce référendum local revêt un caractère décisionnel si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. À ce moment-là, ça devient, il est bien. Ça devient, le résultat devient obligatoire dans les conditions qui ont été fixées là. Alors, il y a ensuite, en dehors du référendum, une autre possibilité, c'est la consultation des électeurs. Donc là, ça appartient au conseil municipal et ça appartient aussi aux électeurs et aux électrices. Un cinquième des électeurs électrices inscrits sur les listes électorales peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La décision d'organiser ou non appartient au conseil municipal. Donc le conseil municipal peut dire oui, il peut dire non. Bon, là aussi, il faut que ça soit transmis, bien sûr, au préfet. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune, c'est-à-dire le conseil municipal, arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. Donc vous voyez la différence là, avec le référendum. Là, on est pallié. Hein, le résultat, on en prend connaissance et le conseil municipal décide. Alors, troisième, le vote. En ce qui concerne les votes dans le cadre du conseil municipal, bon, la votation ordinaire, c'est le vote à main levée. Les votes nuls et abstentions n'interviennent pas dans la décision, mais ils sont précisés dans le compte-rendu. Alors, le maire met en place un vote à bulletin secret à la demande d'un conseiller municipal. Toutefois, le conseiller municipal qui le demande, il ne peut pas renouveler sa demande, il ne peut pas à chaque fois dire « Ah, moi, je veux un vote à bulletin secret, etc. » Il le demande une fois, ça suffit dans la séance. Clôture de toute discussion, seul le président de séance peut mettre fin au débat. C'est ce qu'il fait généralement en disant « la séance est close ». Tu montes ? D'accord ? Alors, question orale des citoyens. Après la clôture de chaque séance, le maire donne la parole au public. Vous avez vu qu'on le fait systématiquement. Et on fait des réponses, soit le maire lui-même, soit le conseiller municipal qui connaît bien la question. Et éventuellement... Et ça pourrait faire l'objet d'une réponse écrite. Et je vous rappelle qu'on a décidé donc de mettre dans l'enregistrement, porté à la connaissance du public,
qui peut écouter les questions qui ont été posées. C'est particulièrement apprécié, m'a-t-on dit. L'observatoire de la participation. Alors, une fois par an, au minimum, cette instance est sollicitée par le conseil municipal pour évaluer, dans un rapport écrit, le fonctionnement de la démocratie participative et coopérative, et plus particulièrement, la bonne application du présent règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre ? Non. Allez, on passe. 6. Compte rendu des débats et des décisions, les comptes rendus vont s'afficher, etc.
J'ai juste une petite question.
Oui, une question. Qui est l'observatoire ? Ah ben, on a l'observatoire, il va être mis en... Les textes de référence, l'observatoire, on n'a pas encore véritablement pris la décision comment il fonctionnerait. On a bien dit qu'il serait mis en place dans le futur. Hein. En principe, il y a une participation essentielle de citoyens.
Dans les annexes, il y a une petite phrase là-dessus. Ouais. La composition de l'observatoire, nombre de participation, nombre de participants. Nombre d'élus et de noms élus, mode de désignation sera déterminé en 2021 et validé par le conseil municipal. Donc on en parlera bientôt.
Alors, compte rendu des débats et des décisions, bon, les comptes rendus sont affichés, les procès verbaux, bon, il n'y a rien de bien particulier, tu peux monter. Donc c'est là que je dis la rectification éventuelle est enregistrée immédiatement sur le procès verbal en cours d'adoption. Ça me paraît. Essentiel, parce que plusieurs fois je me suis heurté moi, à ça. On va voir quelque chose, un conseil d'il y a 5 ans, et puis finalement après on découvre que dans le conseil suivant il y avait eu une rectification qui n'a pas été marquée dessus. Voilà. Des remarques sur ce chapitre ? Alors on passe au chapitre dispositions diverses. Bon, la modification du règlement intérieur, bah, il peut se faire en cours de mandature. À la demande du maire ou sur proposition d'un conseil municipal, à délibérer bien sûr. L'application, le présent règlement a été adopté donc le 11 janvier 2021. Il doit être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les 6 mois qui suivent son installation. Oui, il doit être dans les 6 mois. Je vous fais remarquer qu'on a 5 jours de retard, hein, parce que normalement, il aurait dû être mis en place avant le 3 janvier, puisqu'on a été mis en place le 3 juillet. Voilà. Le règlement intérieur précédemment adopté, continue de s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Ensuite, et bien voilà, on a terminé en ce qui concerne le règlement. Donc, on a jugé utile de mettre 2 annexes. Une annexe 1 qui correspond à la charte d'identité municipale de Dieulefit, qui exprime notre volonté. Là aussi, on a fait une petite correction, un peu. Nous souhaitons aller vers un changement de modèle socio-économique, promouvant plus la coopération. Alors, il y a les A, élus et citoyens, vers une étroite coopération. C'est l'information et la transparence, diffusion d'une information complète. Bon, ça s'applique aux initiatives, aux travaux, aux décisions, aux délibérations, aux votes. Nous pensons que rien ne doit être dissimulé, et c'est pour ça que je rappelle donc qu'on a bien décidé d'enregistrer les propos après la clôture. Reconnaissance des citoyens, les habitants sont reconnus comme acteurs légitimes dans la vie de la ville, de la cité, et appelés à participer activement. Implication des habitants. Si les élus, ça c'est aussi important, parce que si les élus municipaux restent garants et responsables du fonctionnement de la commune, nous sommes aussi conscients de l'impact de la décision politique locale sur la vie de chaque citoyen. C'est pourquoi les citoyens sont impliqués de façon permanente dans l'émergence des idées, des projets, la construction des solutions et la prise de décision. Et je rajouterais, il faut aussi qu'il leur appartient de se saisir un petit peu de ces possibilités. Alors, transition des modes.
Je voulais juste rajouter un petit mot. Je crois qu'on est au 6e conseil municipal de notre mandature. Et je suis très content, et je suis très content de le dire aussi, de la présence du public aujourd'hui. Nombreux, malgré les difficultés, malgré les questionnements. Donc, bravo à vous tous et à vous tous.
Alors ensuite, on a un paragraphe visant à favoriser les transitions. Hein. C'est des déclarations d'intention, hein, tout ça. Hein, voilà.
Juste une petite phrase, ouais. On m'avait dit que les gens ne venaient jamais au conseil municipal. Pas Dieu fille, hein. Dieu fille, bien.
Oui. Dans les mandatures précédentes,
je te laisse,
il y avait 4 ou 5 personnes, enfin bon. Alors, mais peut-être que ça sera aussi comme ça dans certains conseils. Favoriser les transitions, donc la transition écologique, on déclare là, qu'on veut préserver les ressources naturelles, la biodiversité, réduire l'impact des activités et encourager des modèles cohérents de développement économique. Alors, en accord avec le pacte pour la transition, c'est un pacte ça, qui a été mis en place par un certain nombre d'associations il y a un an, à l'occasion des élections, et on a rajouté la charte de l'environnement intégrée à la Constitution en 2005. Parce qu'on perd peut-être de vue qu'il y a une charte de l'environnement qui est intégrée dans la Constitution. Hein. Et quand c'est dans la Constitution, en principe, quand même, c'est un peu force de loi assez importante. La transition démocratique, elle vise à la libérer du sentiment d'impuissance, des pratiques d'une citoyenneté trop souvent réduite aux échéances électorales. Hein. On veut que ça vive en dehors des échéances électorales. Tu montes après ? Transition sociale. La municipalité, avec les moyens dont elle dispose, seulement les moyens dont elle dispose, et dans les domaines qui lui sont attribués, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a bien des domaines maintenant qui sont passés dans la communauté de communes. Alors essentiellement, c'est l'aide sociale, la culture, l'éducation. On estime qu'elle a le devoir d'assurer une vie digne, y compris sur le plan matériel. Donc, à chercher, à mettre en œuvre des moyens qui visent à empêcher la grande pauvreté. Et elle sera attentive à résorber le chômage longue durée en faisant appel aux solidarités locales. Vous savez qu'il y a un programme quand même qui est examiné au niveau de la Comcom sur le territoire zéro chômeur. On en entendra sans doute reparler. Annexe 2, gouvernance et...
Allô ?
Ah.
C'est trop long.
C'est la censure.
La pile n'en peut plus.
Alors, oui, c'est bon. Mais si je prends les deux, je vais parler deux fois plus. Gouvernance, règles de principe. C'est ça, voilà, annexe 2. Là aussi, c'est des déclarations d'intention. Ouais. Qui peut être à l'origine de propositions, projets qui vont être débattus dans une commission ou dans des groupes de travail? C'est un groupe d'habitants. Ça peut être au cours de réunions de quartier. Ça peut être des élus aussi, bien sûr, heureusement. Et ça peut être les commissions consultatives, dont c'est l'un des rôles majeurs de proposer des projets qu'elles ont mis en place elles-mêmes ou qu'elles ont mis en place en les récupérant auprès des groupes de travail.
Sur les quartiers, juste une petite parenthèse pour dire que Marie-Madeleine fait un travail en ce moment sur le partage du territoire entre les élus pour essayer d'avoir des référents de quartier qui se tiennent. Elle nous en parlera autour d'un prochain conseil.
Voilà, alors les commissions consultatives, dont on a parlé tout à l'heure, elles sont un petit peu plus détaillées, comment elles fonctionnent, mais les habitants volontaires, avec deux élus référents, elles comprennent des membres réguliers et des auditeurs libres qui deviennent membres réguliers après trois présences en commission. Là, on décide que si quelqu'un est venu quand même trois fois, s'il est vraiment membre régulier, c'est pas ce que l'on peut dire un auditeur libre. L'auditeur libre peut venir une fois de temps en temps, et puis voilà. Les commissions sont mises en place à la date dans le prochain conseil municipal, si j'ai bien compris, Christian, on mettra en place. Ces commissions valident les groupes de travail et veillent au suivi de leurs travaux. Elles peuvent inviter des personnes ressources, bien sûr. Que dire de plus? Non, pas ça, ça va. Voilà. Les groupes de travail, ils sont dans le cadre d'une commission, bien sûr. Ils sont mis en place par une commission consultative. Elles sont composées d'habitants et d'élus.
sa fonction est d'étudier, travailler un projet précis, validé, suivi par la commission. Hein, voilà. Chaque groupe de travail désigne deux référents, de préférence un élu et un non-élu. La séance du groupe de travail peut éventuellement se dérouler en public, si le groupe de travail, si la commission l'a décidé. La commission veille particulièrement dans ces groupes de travail au budget et au financement du projet. Hein, parce que bon, c'est quand même, il ne faut pas perdre de vue le financement. Hein. Et aussi la progression dans le calendrier, c'est-à-dire qu'elle est en charge éventuellement de pouvoir dire au groupe de travail, la commission, hein, dire écoutez, vous avez créé un groupe de travail il y a six mois, on n'a toujours rien vu, alors qu'est-ce que vous en êtes, hein. Le comité de pilotage, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, il est créé en complément du conseil municipal pour favoriser la coopération entre citoyens et élus. L'observatoire de la participation, ben, on en a parlé aussi tout à l'heure, hein. Il veille au bon fonctionnement de la démocratie participative. Sa consultation par le conseil municipal est obligatoire une fois par an. La composition de l'observatoire sera déterminée, on l'a dit tout à l'heure. Le rappel, le conseil municipal, il est formé de 23 élus, c'est l'instance décisionnaire légale. Il faut bien insister là-dessus, hein. C'est l'instance qui va décider. C'est aussi le conseil municipal qui valide sur le plan juridique, administratif, réglementaire, les projets et dossiers approuvés par le comité de pilotage. Et il peut décider, on l'a vu tout à l'heure, de soumettre à référendum ou à vote consultatif une question d'intérêt général. C'est clair, hein, le public, ça a été. Voilà, le conseil municipal. Alors, on avait prévu, le conseil municipal peut établir des conventions de projet avec des associations pour faciliter les initiatives venues de celles-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait. Bon, on pourrait passer une convention, par exemple, avec le lien 26 pour qu'il s'occupe de telle ou telle chose. Voilà.
Ok.
Voilà, version 13.
Excusez-moi d'avoir été un petit peu long.
Merci Jacques. Je pense qu'on a posé des questions au fur et à mesure. Donc je reprécise le fait que donc on change une petite chose sur l'article 8 qui est partagé en deux. Hein, sur l'expression de la minorité, on le partage en deux. Donc soit on met un article 9 et on décale tout, soit on met un 8-10. Enfin voilà. Ou un sous-chapitre, quoi, un sous-article.
Moi, je préférerais que ce soit un article.
Un article, on décale tout.
Ça serait plus clair, à mon avis. Ça serait bien clair et net.
Ok. On va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient?
On attend la version 14.
Vous attendez la 14. Non, mais je m'engage. Je m'engage à ce que l'article 8 soit séparé en deux.
Non, mais l'abstention.
Il y a des témoins.
L'abstention ne vient pas que de. Il marche sur texte.
Celui-là, il marche d'habitude.
C'est vert.
Non, ce que je voulais dire, c'est que, déjà, vous remercier pour les modifications que vous avez prises en compte par rapport à ce qu'on a demandé. Après, le fond de ce règlement intérieur, c'est aussi, la retransmission de votre volonté politique. Et quelque part, on était en face de vous pendant les élections. Donc, il y a des choses qu'on va partager, d'autres choses qu'on ne va pas partager, donc c'est ce qui motive aussi un peu notre abstention. Je veux dire, moi, si tout ce qui est écrit, ça réussit, j'applaudis dès demain.
On va essayer. Merci.
Dès demain ou demain?
Merci. Donc, il y a 4 abstentions. Et qui est pour? Merci. Voilà, il est 7h20, donc ça va, on va être dans les temps. Une délibération concernant l'adhésion au service de conseil en énergie du SDEC. Marc, est-ce que tu as un. On est pour.
Oui, ben je vous propose de ne pas la lire pour rajouter. Hein. C'est-à-dire que le SDED, qui est le syndicat d'électrification de la Drôme, a élargi ses compétences, évidemment, maintenant qu'il y a de l'électricité partout, en particulier à des missions de conseil. De conseil en termes d'économie d'énergie. Voilà. Alors, ce service, il faut y adhérer. Il nous donne droit à des subventions assez importantes sur des projets d'économie d'énergie. Évidemment, il s'agit des bâtiments municipaux. Voilà. En échange de bon, cette adhésion, ouais, je suis assez vite. Hein. Cette adhésion est de 20 centimes par habitant. Alors évidemment, ce qui est totalement dérisoire pour la commune et nous donne droit donc à ces missions de conseil. Alors il faut savoir financièrement que le SDED en fait se paye à partir des certificats d'économie d'énergie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des certificats d'économie d'énergie, c'est un très vieux truc hein, qui date des années 90, je crois, des accords de Kyoto. C'est-à-dire que les entreprises qui produisent de l'énergie payent une taxe qui est censée représenter l'impact environnemental de la distribution d'énergie. Et cette taxe peut être diminuée si on peut présenter ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. Donc en l'occurrence, le SDED récupérera des certificats d'économie d'énergie dont la valeur et correspond aux économies d'énergie potentielles fait à partir du projet une fois réalisé et donc à récupérer l'argent qui correspond à ce certificat d'économie d'énergie. Voilà, c'est un système un petit peu bon, assez ancien. C'est ce qui a permis de mettre en place l'isolation à 1 euro. Bon, voilà, donc on se paye à partir des certificats d'économie d'énergie. Donc, nous proposons d'approuver le règlement d'intervention du SDED pour ses actions, tendant à maîtriser la demande d'énergie sur le territoire joint en annexe, d'adhérer au service de conseil en énergie du SDED à raison de 20 centimes d'euros par habitant, hein, pour une population de 3297 habitants, donc ça fait 659,40 euros par an. Renouvelable chaque année civile pour cette année, au 31 décembre 2021. Voilà. De céder au SDED les certificats d'économie d'énergie, donc issus des travaux réalisés. Voilà, donc qui est contre ?
Il y a des questions.
Ah oui, pardon, s'il y a des questions, oui, c'est vrai. Oui, j'ai
des aides pour les bâtiments publics. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Donc, voilà,
c'est pas un programme d'aide qui s'adresse aux habitants et aux bâtiments d'habitation, hein, pas du tout. C'est vraiment spécifique aux bâtiments communaux, quel que soit leur usage. Voilà, y a-t-il d'autres questions ? Voilà, donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, unanimité.
Merci Marc. Merci. La discussion suivante concerne la convention de mise en place d'un logiciel pour le périscolaire. Marion Martin va nous expliquer de quoi il retourne et du problème.
Voilà, dans un souci d'amélioration de la qualité du service du périscolaire, voilà, on a réfléchi à la mise en place d'un logiciel d'inscription pour les familles. Voilà, donc après consultation, on a retenu la société Complice, qui va nous accompagner pour la mise en place de l'information et de l'accompagnement des familles pour la prise en main de ce logiciel. Donc ce logiciel permettra aux familles de s'inscrire à distance, de modifier tous les paramètres de leur compte. mis en place au 1er mars afin de laisser le mois de février de battement pour voilà, l'accompagnement, la prise en main. Et bien sûr, une attention toute particulière sera apportée aux familles qui n'auraient pas accès à Internet. Voilà, les deux responsables du périscolaire seront formés pour les accompagner spécifiquement. Voilà. L'adhésion annuelle à ce service s'élève à 8 euros par enfant et un bilan sera effectué à la fin de la première année auprès des familles pour connaître la satisfaction. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, Patrice.
Merci. Donc, vous parlez de logiciel ou c'est une application ?
C'est un logiciel dont nous. Alors, je ne suis pas très bonne en termes informatiques, mais ce n'est pas nous qui l'achetons et qui l'hébergeons.
Non. Peut-être la question n'est pas bien précise. C'est est-ce que, donc, logiciel, application, peu importe, est-ce que les parents, donc, ils vont avoir accès à la plateforme, enfin à l'inscription, c'est ça. Le but, c'est que les parents puissent s'inscrire via Internet. D'accord, c'est pas les personnes du périscolaire qui vont. C'est pas simplement pour la gestion du personnel.
Non.
C'est ouvert aux parents.
Tout à fait. D'accord. Les parents pourront donc inscrire, c'est eux qui vont du coup enregistrer toutes leurs informations personnelles, l'information personnelle de leur enfant. Ça sera fait une première fois, après le dossier sera renouvelé d'année en année jusqu'à l'entrée au collège. Et ce sera donc eux qui auront la main pour inscrire tel jour, à tel, le matin, le midi, le soir. On est en train d'étudier les petites subtilités de ce genre-là.
Ça représente une grosse simplification pour les parents et pour les personnels.
D'autres questions ? Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Est-ce que quelqu'un est pour ? C'est voté à l'unanimité.
Merci. Parfait, merci. On va passer aux questions diverses. Alors, j'avais deux ou trois petites choses à vous dire en premier. La première, qui est une bonne nouvelle, on compte là-dessus, mais c'est mieux quand c'est fait. La subvention complémentaire qu'on avait demandée au conseil régional a été acceptée pour les archives. C'est une subvention de 55 000 euros qui nous permet d'avoir un taux de subvention sur ce projet de 80%. Donc c'était l'objectif et c'est atteint et on en est très content. La deuxième chose concerne, on parlait tout à l'heure des personnes en fragilité, la convention avec la Croix-Rouge pour la mise en place d'une épicerie solidaire a été discutée et acceptée aujourd'hui même par le président de la Croix-Rouge de la Drôme et moi-même. Une convention mise à disposition d'un double local, je dirais, le rez-de-chaussée des anciens lavatoires et la cave à son, donc la cave qui est à côté, la cave voûtée, qui les satisfont pour des raisons d'abord d'un peu de. En même temps, c'est central dans la ville, en même temps, c'est un peu discret, c'est pas sur la place dans la rue du Bourg. C'est les surfaces suffisantes, ils n'ont pas besoin de locaux très. Enfin voilà, ils ne sont pas parfaits, c'est beaucoup, hein, mais enfin, voilà, ça leur va bien. Donc, ça a été discuté cet après-midi et ce sera signé vendredi. Il y aura ensuite une discussion avec le CCAS et avec les associations caritatives de la ville pour que tout ça se passe en harmonie, mais c'est plutôt bien parti. Voilà, j'ai parlé des référents de quartier tout à l'heure, donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses ?
Oui, j'avais une petite précision que j'ai omis tout à l'heure lorsque j'ai parlé des informations Covid. Nous avons, la municipalité a fait une offre à l'ARS de mettre à disposition la salle des fêtes pour faire ce qu'on appelle maintenant un vaccinodrome qui aurait été mis à disposition pour un, deux jours ou trois jours. Mais pour le moment, on est sans réponse. L'ARS est totalement débordé, je pense. Voilà. Donc je voulais que l'on sache qu'on avait fait des propositions et qu'on ne reste pas là à attendre.
Oui,
Colette.
Moi, je voulais simplement revenir sur le bouquet des aînés donc, qui a été supprimé dans le cadre de la crise sanitaire. Donc là, les ballotins de chocolat ont été commandés sont pour les 80 ans et plus. Donc ça, on en avait discuté, c'est une question de budget de CCAS. Donc nous commencerons à... Nous les donnerons... Donc, pour les gens qui peuvent se déplacer les 20, 21 et 22 janvier ici à La Halle, donc j'appelle un peu des bénévoles pour. Des bonnes volontés, voilà, pour aider sur cette distribution. Il n'y aura une part. On va en donner ici, mais on a aussi une partie des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et nous porterons à ce moment-là les ballotins à domicile, ce qui correspond à peu près à 45 personnes. Donc il va falloir faire aussi là des petites équipes pour... Donc je vais essayer de regarder ça par quartier et de faire des petits circuits. Voilà.
En tout, ça représente combien de personnes?
On est à peu près sur 300 ballotins. On a pris 300 ballotins, donc on doit être à 260 entre tous les inscrits. Il y a aussi les EHPAD, pardon, j'avais oublié. Nous allons donner aux EHPAD, donc avec Christian, voilà. Et il nous reste une petite quarantaine de ballotins qui pourront être pour les retardataires et ceux qui vont s'apercevoir qu'ils y avaient droit, ils ont dû demander, ou qui n'ont pas bien compris ce qu'on avait écrit. Voilà. Des questions?
Moi, j'ai juste une demande. Est-ce que tu pourrais nous envoyer un mail pour tes besoins, à quelle date, à quelle heure, éventuellement?
Je vais faire ça.
Merci.
Oui, enfin, une dernière précision encore. Quand la mémoire part, j'ai oublié de vous dire qu'en ce qui concerne la vaccination des plus de 75 ans, il y a un potentiel de plus de 600 personnes à Delphi. Le nombre de personnes qui ont plus de 75 ans est tangente 600.
Oui.
Nathalie, vous voulez prendre la parole. Oui, moi j'avais juste une question concernant l'extinction des lumières la nuit. Je voulais juste savoir si la plage horaire de 23h, 6h en semaine est quelque chose qui est figé ou est-ce que, selon les retours qu'il pourrait y avoir, vous allez peut-être changer. Moi, personnellement, je trouve que 6h, c'est un petit peu tard.
Oui, c'est déjà remonté. Il y a des gens qui vont travailler, notamment à l'hôpital, pour 6h, donc qui ont besoin de circuler, éventuellement à pied. À 5h30, donc ça a été remonté. L'idée de l'extinction, c'est de faire une expérience. Forcément, ça va évoluer en fonction de la saison, c'est-à-dire que les 23h sont déjà repoussées à minuit les vendredis soir et samedi soir, et tout sera décalé d'une heure en été. Et puis, ben, on est à l'écoute de tout le monde. Hein. Évidemment, vos remarques nous intéressent. On a eu, pas énormément de remarques, mais on a eu que des remarques positives, c'est-à-dire des gens qui disent que c'est très agréable d'avoir une vraie nuit la nuit.
Je suis complètement d'accord, sauf que pour être aussi quelqu'un qui sort dehors avant 6h du matin, en particulier pour sortir mon chien, je peux vous dire que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi angoissant de se retrouver dans le noir le plus complet. Donc je pense aussi aux gens, bien sûr, qui vont travailler. Et effectivement, quand ils attaquent à 6h, voilà, 6h, c'est un petit peu trop tard.
D'accord. Camille ?
Je précisais, oui, qu'il y a un groupe de travail éclairage public dans le cadre de la commission environnement. Et donc, ils ont travaillé sur un questionnaire qui est bientôt prêt et qui va être diffusé auprès des habitants pour avoir tous les retours et avoir une idée plus globale, voilà, que quelques retours.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui.
Merci. Je voulais juste intervenir sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit depuis un moment le fait que ça s'écharpe de plus en plus. Et en fait, j'ai envie de qu'on se rende tous attentifs à ça. Il y a plein d'incompréhensions. Alors, on sait que déjà, c'est pas facile quand on se voit pas et qu'on se téléphone. C'est parfois source d'incompréhension. Alors, sur les réseaux sociaux ou les mails, c'est encore pire. Et je fais partie de groupes, différentes associations et autres, où on a carrément pris la décision ferme de ne plus partager d'état émotionnel par écrit, parce que c'est systématiquement la galère ensuite à rattraper, et on se fâche facilement. Donc autant vous dire que sur Facebook, où chacun peut dire librement ce qu'il veut et parfois se faire plaisir le temps d'une petite phrase assassine, en réalité ça monte très très rapidement en épingle, et je trouve que c'est dommage. On passe en plus vraiment du temps à essayer d'encourager le débat démocratique dans des lieux comme ici, dans des commissions. Certes, le Covid ne facilite pas les choses, mais en tout cas, rencontrons-nous, parlons-nous, ayons le courage du face-à-face de nos opinions et soyons dans l'ouverture, le cœur et la modération. Voilà, c'est le message que je souhaitais vous passer ce soir.
Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses rapides, parce que l'heure approche, on va peut-être laisser la... Ça va ? On ferme le conseil. Je déclare fermé le conseil municipal du lundi 11 janvier 2021. Est-ce que vous avez des questions, cher public ? Oui.
Est-ce que les personnes de plus de 80 ans peuvent participer aux distributions du paquet ? Parce que je suis nouvelle arrivée à Dieu-le-Fi et j'aimerais connaître les personnes qui ont plus de 80 ans. Voilà. Et c'est une occasion même d'aller le distribuer moi-même.
Il y en a qui sont ici.
Aux 40 personnes.
Super. Très bien, vous aurez bien évité votre ballotage.
Bon, moi je voulais juste poser une question très pratique. À partir de mardi, on a un couvre-feu à 18h.
Demain.
Oui, donc demain. Moi je suis partie d'un groupe de travail, on avait prévu de se réunir pour travailler sur le sujet qui nous intéresse. Il se trouve qu'un jour on est bien qu'on travaille. On avait prévu des réunions à 17h30. Comment on fait pour continuer ? Est-ce qu'on a le droit de se réunir ? On n'a plus le droit de se réunir, de sortir ? Alors, oui, en vidéo, ok, bah, dans le groupe on a une personne qui n'est pas équipée. Donc ça l'exclut. C'est compliqué. Vous avez pas ce que
je veux dire ? Je suis dans le cadre d'un conseil municipal, je ne peux pas dire ce que je pense, mais ça commence par M. C'est suivi ouais. Par eux, et voilà, c'est la merde.
Bon. Ben, on va trouver une solution. Hein. En tout cas, c'est plus de la peine de pouvoir réserver une salle ou de se réunir au-delà de 18.
Il n'y a pas de situation, il n'y a pas un système de
remodelation. Pour des raisons professionnelles ?
Oui.
Pour raisons professionnelles. Après, un groupe de travail, je ne sais pas, Eric, tu as un micro derrière.
Et pour des raisons professionnelles, effectivement, mais en dehors de ça, c'est pas possible. Ou les instances délibératives, comme ce soir, par exemple, le conseil municipal peut réglementairement se réunir. C'est une instance délibérative. Là, la commission dont parle madame, ou les groupes ad hoc, n'ont pas cette reconnaissance.
Merci. Une autre question ? Une fois. En haut. Ça va ? une fois, deux fois, trois fois. Merci à tous, bon retour et bienvenue.